Semaine Sainte 2022.
Semaine Sainte 2022, en direct de la cathédrale Notre-Dame de la Cède de Tarbes. Semaine Sainte 2022, le MAG, Mathias Terrier.
Bienvenue autour de notre table de partage qui est installée donc à Tarbes, au cœur de cette cathédrale Notre-Dame de la Cède. Nous venons de vivre ensemble l'office des ténèbres de ce Vendredi Saint qui nous a placés d'emblée dans ce jour si particulier de la liturgie chrétienne. Aujourd'hui, nous célébrons la passion et la mort du Christ en croix. Les orthodoxes, on s'en souvient, feront cette célébration la semaine prochaine. Alors que nous, les catholiques, et les protestants également, il faut le signaler, nous célébrons la passion et la mort du Christ aujourd'hui. Plusieurs événements importants se déroulent en cette journée. Jésus comparaît devant des tribunaux, oserais-je dire. Il est condamné à la flagellation, à la crucifixion. Jésus porte sa croix jusqu'au Golgotha. Jésus est crucifié. Il meurt sur la croix. Il est enseveli dans le tombeau. J'aimerais que ce matin, en particulier, nous puissions nous arrêter ensemble sur le procès de Jésus, ou plutôt les deux procès de Jésus, mais plus largement, nous allons évoquer ce Vendredi Saint, ce temps très spécial avec nos invités. Marie-Liesse, bonjour. Marie-Liesse Federici, bienvenue. Dites-nous quel est le lien que vous avez avec les fraternités apostoliques de Jérusalem.
Alors moi j'ai presque grandi avec eux parce que j'ai pu faire beaucoup de camps depuis que je suis petite. Et là aujourd'hui je suis venue passer le Triduum comme une retraite au cœur de la communauté.
Vous nous parlerez justement de ce Vendredi Saint et comment vous le vivez à titre personnel. Quel regard vous portez sur ce qui se vit et qui est presque abyssal. Le Vendredi Saint, c'est compliqué à vivre pour les croyants que nous sommes et pour tout un chacun. Frère David Marie, bonjour.
Bonjour Mathias.
Vous êtes responsable des frères au sein des fraternités apostoliques de Jérusalem et de la communauté installée au service de l'animation spirituelle de cette cathédrale Notre-Dame de la Cède, également de paroisses alentour et de paroisses qui sont aussi ancrées dans le monde rural autour de Tarbes, dans la couronne tarbaise.
Tout à fait.
Alors, je vous propose, puisque nous avons Isabelle Duché aussi qui est là parmi nous, de nous plonger peut-être tout de suite dans une première lecture, extrait de Marc, au chapitre 14. Isabelle, bonjour.
Bonjour Mathias, bonjour à tous.
Nous plongeons dans ce qui est le moment crucial que va vivre Jésus. Je vous laisse la parole.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ?» Tous prononcèrent qu'il méritait la mort.
Merci Isabelle Duché pour cette lecture. Extrait de l'évangile de Marc. Frère David Marie, avant d'entrer plus avant dans ce texte, on est forcément un petit peu bousculé par les parties prenantes de ce qui se passe. il y a de multiples acteurs, si je puis me permettre cette expression, dans ce qui constitue les procès de Jésus. Là, nous sommes en présence d'un jugement à travers un grand prêtre devant lequel Jésus se retrouve. Parlez-nous de ce contexte global des personnes et des parties prenantes en présence.
Alors, en tout cas, nous voyons, quand nous lisons l'Évangile dans son ensemble, la place immense que prend justement la passion de Jésus, et notamment le procès, puisque le procès, c'est la partie la plus longue. Quand nous prenons l'Évangile selon saint Jean, que nous allons, dont la passion va être lue ce soir à la célébration de la passion, nous voyons finalement que tout l'Évangile est une sorte de procès. Dans l'Évangile, au chapitre 8, Jésus guérit l'aveugle. Non, c'est au chapitre 9, pardon, il guérit l'aveugle né. Et ensuite, nous voyons l'échange entre Jésus et les pharisiens, et en fait, c'est un procès. Et le procès converge vers ce point culminant, c'est que Jésus se présente comme l'enfant bien-aimé du Père, le Fils de Dieu. Et pour les grands prêtres, qui étaient finalement les garants de la bonne religion et qui préparait les Juifs à la venue du Messie, le comble justement de ce procès, c'est que le Messie est là, présent, et ceux qui étaient responsables du peuple juif, qui devaient donc les accompagner sur ce chemin, ben le comble c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais ils le condamnent à mort. Et pour nous, du coup, de nous dire, mais Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, vient à notre rencontre chaque jour. Et est-ce que nous serions peut-être aussi, finalement, comme ces grands prêtres, contrariés de la façon dont Jésus vient à notre rencontre?
Il y a donc ces grands prêtres, notamment le grand prêtre Anne, Caïphe, le Sanhédrin, qui est une institution, hein, qui est à la fois religieuse, qui est aussi une institution plus politique également. C'est d'abord tout cela. Le procès de Jésus passe par le regard terrible de toutes ces personnes.
Exactement. Donc vous faites bien de dire que c'est à la fois religieux, politique. Enfin, on sent bien que la question cruciale, c'est le pouvoir. Et le comble, c'est que finalement tous ces personnages sont soumis à ce moment-là à l'Empire romain. Donc en fait, ils n'ont même pas le pouvoir entre guillemets terrestre, mais ils sont restés dans une sorte de volonté de puissance qui se déchaîne finalement sur l'innocent, hein, celui qui justement n'a rien fait. Donc les grands prêtres, on voit bien qu'ils ont finalement la. C'est quand même autour des grands prêtres que s'articule la passion, puisque la foule, nous la voyons basculer entre le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Le dimanche des Rameaux, ils acclament Jésus comme le Fils de David, donc comme le Messie. Ils le reconnaissent, et cette même foule, influencée par le pouvoir religieux, politique, enfin, elle crie ensuite à mort, crucifie-le. Donc ça nous dit d'ailleurs quelque chose aussi sur la foule. Moi, je suis très sensible de voir la différence entre la foule et l'assemblée. Dans la foule, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de personnalité. Et alors que dans l'assemblée, puisque l'Église, que Jésus vient constituer par sa mort et sa résurrection, c'est pas une masse, mais c'est des personnes rassemblées au nom de Jésus qui donnent sa vie, qui rassemblent les enfants des hommes perdus, dispersés en un seul corps.
Nous parlerons, vous y avez fait allusion un petit peu plus loin, du pouvoir romain, hein, qui est aussi une donnée de tout ça, de ce contexte. Mais je me tourne vers vous, Marie-Liès Federici. Il y a cette réponse, alors que l'instruction est à charge, hein, au cours de ce procès. Manifestement, l'objectif est clair, c'est la condamnation à mort. Et il y a cette question, tu ne réponds rien. Jésus ne répond rien. On se dit, mais il peut se défendre. Il ne le fait pas, il ne répond rien.
Oui, c'est... Enfin, moi, c'est ce qui me bouleverse beaucoup dans ce Vendredi Saint. En fait, on vient de vivre cette nuit avec Jésus où il est vraiment dans l'angoisse. Hein. Il parle à son père, il crie vers son père. Et en fait, comme si à partir du moment où l'heure était venue, ben, il y a plus. En fait, il est là. Juste, il donne sa vie. Il est dans ce jusqu'au bout de l'amour qu'on a médité hier soir. Et il a rien à répondre face aux mensonges. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe là, c'est que des mensonges. On entend aussi dans l'extrait qu'on vient de lire que les faux témoignages ne concordent pas. Donc, même dans leurs mensonges, ils s'empêtrent. Et Jésus, face à ça, se tait. Et alors qu'en fait, on a vu aussi hier soir qu'avec une parole, il met des soldats à terre. Et là, il se tait. Et pour moi, c'est vraiment cette preuve d'amour, en fait, ce mystère qui vient complètement nous bouleverser aujourd'hui, en fait, du Tout-Puissant qui se fait sans défense et même dans sa parole qui se tait, quoi, qui n'utilise même pas lui qui est le Verbe, il se tait alors qu'il pourrait tout changer en deux mots. Fin.
Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Il ne répond rien, il se tait. Ça peut être très troublant, frère David-Marie, en fait, cette attitude de Jésus. Parce que nous, on aurait envie de se défendre. On aura envie de même de le défendre, de crier pour lui. Et lui ne dit rien.
Je crois que là, nous touchons justement au mystère de la divinité. Dieu seul, finalement, peut ainsi rester en silence, parce qu'en fait, c'est une expression de l'amour. C'est que le procès est complètement tordu, il est faussé, et finalement... Quand on n'a pas un amour plus grand que le nôtre, on ne peut pas rester en silence hein, devant l'injustice, donc on se défend. Et finalement, il n'y a que l'amour qui peut, à un moment donné, nous permettre de rester en silence, c'est-à-dire dans une sorte de paix intérieure, parce que Jésus ne peut pas les obliger de l'aimer, mais par contre, le procès ne peut pas l'empêcher, lui, de les aimer. Et c'est finalement ça qui les embête le plus, d'une certaine façon, hein, et peut-être nous aussi dans notre vie spirituelle. C'est que même si nous sommes révoltés, en fait Dieu est là, Jésus est là, et il nous aime d'un amour totalement inconditionnel. Hein, et le silence de Jésus, il parle beaucoup plus fort à ce moment-là.
Vous avez raison hein, de nous dire comment cela peut-il nourrir notre propre vie spirituelle. On aura l'occasion d'en reparler, parce que ça c'est sans doute l'essentiel, c'est comment ça peut nourrir notre propre vie aujourd'hui. Ce que fait Jésus, ce qu'est Jésus. Je continue avec vous si vous le voulez bien, Marie-Liesse, Jésus dit « Je le suis » à la question « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Comment vous recevez cette réponse de Jésus ?
Quand je m'imagine cette scène, et quand Jésus dit qui il est, j'imagine que ça doit pas laisser indifférent quand même le Verbe qui révèle son identité, ça doit être extrêmement puissant. Et... il y a un autre moment, je ne sais plus quel évangile, où Jésus lit un extrait de Isaïe, où il dit « C'est moi qui ai été envoyé, qui ai reçu l'onction, qui suis envoyé pour sauver ceux qui étaient perdus, etc. » Et à ce moment-là, c'est accueilli et tout le monde dit « Ah, c'est vraiment le Messie !» Et là, la réaction, en fait, elle est proportionnelle à la puissance de ce qui est dit, mais elle est dans la violence extrême, c'est-à-dire ils déchirent leurs vêtements, ça rentre dans la folie quoi, dans une extrémité, parce qu'en fait on ne peut pas rester indifférent au Messie qui dit qui il est alors qu'il est juste devant nos yeux. Et là on voit aussi à quel point alors qu'il se révèle dans ce qu'il est, on voit que en fait les chefs des prêtres, ils étaient pas capables en fait, leur cœur était trop perverti, trop dans une attente très précise de ce que devait être le Messie. Jésus se révèle, il vient complètement les bousculer dans la manière dont il se révèle. Et en fait, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas rester indifférents, mais ils versent, en fait, dans, c'est là que, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a la folie meurtrière qui rentre et il y a plus, après ça s'emballe jusqu'à la torture et la crucifixion.
Frère David-Marie, alors que Jésus ne répond rien aux faux témoignages, il ne répond pas. En revanche, à la question « Es-tu le Christ ?», il répond « Je le suis ».
Il est venu pour sauver, il est venu pour manifester le Père, il est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Simplement, le procès se joue justement autour de l'identité de Jésus, parce que les grands prêtres et aussi donc les responsables politiques d'Israël étaient en grande difficulté. Et ils attendaient un Messie politique. Et quand Jésus vient en disant « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, lorsqu'on vous frappe sur une joue, tendez l'autre », ils étaient à la fois, je pense, quand même interpellés comme nous, et en même temps, ça les dérangeait profondément. Ils voyaient bien que les foules étaient attentifs à ce que disait Jésus, puisqu'il apportait la véritable libération. Non pas la libération de l'envahisseur seulement, mais une libération intérieure. Donc ils suivaient Jésus, parce que ses paroles les nourrissaient au plus profond. Et les grands prêtres, au lieu de suivre ce chemin de la véritable liberté qui s'ouvre devant eux, s'enferment dans une sorte de liberté politique et donc s'enferment dans le piège du pouvoir. Et donc Jésus, il dit je suis le Christ, je suis le Messie, je suis celui qui est envoyé par le Père pour vous ouvrir un chemin. Mais je ne peux pas passer par les chemins que vous avez imaginés. C'est le chemin qui est tout tracé par mon Père. C'est le chemin de l'offrande.
Nous allons maintenant écouter un autre texte, si vous le voulez bien. Donc après cette comparution devant le Sanhédrin, enfin en tout cas devant les grands prêtres, on va voir comment Jésus comparaît et qu'est-ce qui se passe devant Pilate, devant le pouvoir politique, le pouvoir romain. Jésus est traduit devant le gouverneur. Je lis cet extrait de l'évangile de Jean. « Ils conduisirent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était de très bonne heure. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelles accusations portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur répondit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi, ta nation, et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et en disant cela, Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » On a l'impression, nous sommes en compagnie, je rappelle, du frère David Marie, qui est responsable des frères de la communauté des frères apostoliques, des fraternités apostoliques de Jérusalem, qui anime la vie spirituelle, notamment de la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, et puis vous, Marie-Liesse Federici, qui est très proche de cette communauté. Je commençais cette phrase en disant, nous avons l'impression d'un dialogue de sourds. Comment vous voyez les choses, frère David Marie?
Alors Pilate, c'est terrible quand on est effectivement quand on lit l'échange entre Jésus et Pilate, on se dit mais bon sang, comment dire, on sent à la fois chez Pilate malgré tout un désir, Hein, et autant chez les grands prêtres, on sent que ce désir, il a été complètement recouvert, refoulé. Enfin, c'est, il est perverti depuis donc bien longtemps. Hein, donc ça se faisait bien longtemps que Jésus l'ait dérangé. Donc dans le procès avec les grands prêtres, on voit que là, il y a vraiment plus du tout de faille possible, d'ouverture possible. Tandis que chez Pilate, donc une des premières fois qu'il est en face de Jésus, on voit bien qu'il est interpellé. Jésus. On le voit même dans la façon de dire les choses. Jésus, il est serein, il est calme. On parle du procès de Jésus, mais d'une certaine façon, c'est Jésus qui préside le procès. On le voit très bien dans cet échange entre Pilate et Jésus. Et jusqu'à ce moment crucial de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et on voit que Pilate, malgré tout, a un désir. Hein, ce qui le perd, c'est la lâcheté. Hein. Et finalement, il est amené à gouverner ce pays rebelle. Il doit assurer une sorte de paix semblable. Et finalement, il cède, hein, mais par lâcheté. Mais on sent malgré tout, et ça c'est quand même aussi pour nous, une espérance. Hein, c'est que on sent dans l'échange entre Pilate et Jésus, du côté de Pilate, une petite ouverture. Qu'est-ce que la vérité? Il s'interroge. Il voit bien qu'il est à côté, mais en même temps, il n'est pas indifférent.
Oui, Pilate, sur ce registre un peu du philosophique, quoi. Il s'interroge sur qu'est-ce que la vérité. Il y a comme dans ce dialogue, on a dit un dialogue de sourds, même si Pilate est vraiment à la volonté d'essayer de comprendre et d'embrasser ce qui lui est envoyé, hein, et qu'il ne comprend pas. Il y a comme même des quiproquos. Est-ce qu'on n'est pas, Marie-Liès, sur des registres qui ne réussissent pas à se rencontrer? D'un côté, celui qui veut être raisonnable, qui est la représentation légale, hein, en quelque sorte, le droit, Pilate. Et puis, de l'autre côté, Jésus, qui est dans un autre monde, qui a des réponses qui déstabilisent Pilate, qui nous déstabilisent nous aussi, qui déstabiliserait aujourd'hui encore, hein, quiconque voudrait l'interroger de cette façon-là. Comment vous voyez ces deux mondes qui cohabitent là?
Mais ça, c'est quelque chose, chez Saint Jean, en tout cas, c'est permanent. Il y a toujours un décalage, même quand les disciples posent des questions toutes bêtes à Jésus, ils répondent toujours, dans son monde, quoi, dans son monde qui est celui du Père. Et alors là, c'est d'autant plus frappant parce que Pilate, c'est même pas un disciple, quoi. C'est vraiment c'est les nations, c'est le pouvoir temporel, c'est ceux, aujourd'hui, pour nous, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont pas de l'Église. Et donc oui, ce décalage de réponse est perturbant en fait. Et pour autant, moi, je suis hyper touchée parce que autant Jésus avec le Sanhédrin, qui sont, c'est son peuple, c'est sa religion, c'est le peuple élu dont il est issu lui-même, il peut juste dire son identité et rien de plus parce que on ne lui laisse dire rien de plus. En revanche, Pilate, il est sincère dans ses questions et il veut vraiment comprendre. Et en fait, ça permet à Jésus de faire des grandes réponses, enfin qui sont belles et qui sont vraiment au cœur aussi de notre foi. Sur cette réponse sur la vérité, je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Et en fait, Pilate, c'est ce qu'est-ce que la vérité. Et après, ça montre aussi qu'il s'est laissé toucher, quoi. Et alors peut-être qu'il est pas encore prêt à donner sa vie pour la vérité. Il appartient peut-être pas encore complètement à la vérité, mais contrairement aux prêtres qui sont censés être les bons, les parfaits, les tout ça, et qui, enfin, c'est chacun de nous en fait, hein, enfin les catholiques bien comme il faut, qu'on peut, enfin parfois on peut se dire, voilà, se voir comme ça. Et ben en fait là c'est le chef romain qui vient se laisser interpeller. Et moi, c'est, enfin, une petite anecdote, mais petite, j'aimais pas du tout Pilate parce que je croyais que c'était à cause de lui que Jésus avait été crucifié. Et j'avais un peu une haine contre ce personnage historique. Et en fait, en grandissant et en méditant cette passion, je me rends compte que non. Enfin, alors oui, il a été lâche, certes, comme chacun de nous, mais lui, il a essayé de sauver Jésus parce qu'il a compris qu'il se jouait quelque chose de plus grand et que finalement c'est pas là que se joue la mort de Jésus, c'est vraiment pas, enfin bien sûr historiquement il y a des choses qui se jouent à ce moment-là, mais voilà, il propose Barabbas, il essaye de trouver une porte de sortie qui vienne pas complètement rendre folle la foule, parce que lui c'est le but qu'il a, mais il se laisse vraiment interpeller, et ça, moi, ça vient me toucher vraiment, cette attitude de Pilate.
Nous allons marquer une pause dans cet échange que nous avons avec Marie Liès et puis avec vous, frère David-Marie. Juste après, nous continuons à approfondir à la fois et les accusations, la condamnation et puis les paroles de Jésus. Peut-être que les grandes réponses de Jésus, elles sont sur la croix. On verra tout cela juste après la pause.
La parole en silence se consume pour nous. L'espoir du monde a parcouru sa route. Voici l'heure où la vie retourne à la source.
Nous sommes en direct de Tarbes pour vivre ensemble ce triduum pascal et ce sont les fraternités monastiques de Jérusalem, les fraternités apostoliques qui sont envoyées vers le monde. Elles sont aussi un peu monastiques, sont des moines dans la ville. Ils vont peut-être, le frère David-Marie qui est là, notre invité, nous le dira. En tout cas, nous sommes invités chez eux pour, puisqu'ils sont chargés de l'animation spirituelle, l'accompagnement des paroisses autour de la cathédrale, nous sommes invités chez eux pour vivre tous ensemble ce temps qui est, bon, on va dire, la clé de voûte de la foi, de notre foi, c'est-à-dire ce temps de Pâques. Et nous sommes plongés dans le Vendredi Saint. Ce Vendredi Saint qui est à la fois étourdissant, déroutant. Nous l'avons vu au cours de ces procès, puisqu'on doit parler des procès de Jésus. Procès religieux, et puis procès plus, on va dire, juridique face à Pilate, où Jésus ne répond pas, où il me semble même qu'il y a comme un dialogue de sourds, où Jésus apporte des réponses qui ne sont pas de ce monde, en tout cas en apparence pour Pilate. Bref, tout ça est très déroutant, même pour nous. Et nous nous disons, mais comment faire avec ce vendredi saint ? Il y a comme parfois le sentiment d'une sorte d'impasse, même si on sait que la lumière n'est pas très loin, elle est là toute proche. Et nous sommes donc avec le frère David Marie, qui est le responsable des frères, et ici à Tarbes, des frères des fraternités apostoliques de Jérusalem, et puis Marie Liès, qui est proche de cette communauté. Nous avons beaucoup parlé des procès de Jésus, avec ce qui se passe devant les grands prêtres, ce que Jésus dit à Pilate, les interrogations de Pilate, ça, presque sa bienveillance aussi. Il se dit, mais pourquoi condamner Jésus ? Frère David Marie, on parle de royauté dans les dialogues que nous avons lus juste avant la pause. Il y a cette question de savoir si Jésus est roi. Évidemment, c'est une question pour celui qui est le patron, qui est le chef dans un territoire. Pour les rois eux-mêmes, ils s'interrogent s'il n'y aurait pas un roi qui viendrait les concurrencer. Mais de quelle royauté parle-t-on ? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un quiproquo ? Est-ce que le mot n'est pas, au fond, un peu piégé ?
Alors Pilate, donc, il essaie de comprendre, puisque les grands prêtres ont livré Jésus en disant qu'il s'est fait le roi des Juifs alors qu'il n'est qu'un homme. Et Pilate justement pose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et plus loin, Jésus, donc il dit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes. » On sent que, en fait, Jésus, il est sur un autre plan. Il est effectivement roi. Et nous le verrons donc plus tard, quand Jésus est condamné à mort, il fallait toujours mettre la raison de la condamnation au-dessus de la croix. Et ce que Pilate écrit, c'est le roi des Juifs. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié, c'est parce que il est le roi des Juifs. Et donc, je me perds un peu, mais en tout cas, ce qui est sûr...
Et d'ailleurs, ce sera le panneau qui sera inscrit au-dessus de Jésus, Jésus de Nazareth, au moment de la crucifixion, roi des Juifs.
C'est ça. Et c'est ça qui dérange tellement donc les grands prêtres, et que Pilate, il insiste en disant ce que j'ai écrit, ce qui est écrit, mais en tout cas, on voit pour Jésus, quand il est face à Pilate, il lui parle d'une autre royauté, qui n'est pas de l'ordre du pouvoir, mais qui est de l'ordre du service. Et tout à l'heure, nous disions que Pilate, il est un peu comme interpellé. Parce que finalement, pour un responsable politique, s'il n'est pas au service d'un bien commun, finalement, son pouvoir, elle perd tout son sens. Et c'est peut-être là, justement, la clé de rencontre que Pilate aimerait, mais qu'au final, il n'y arrive pas.
Oui. Il faut que nous parlions de la condamnation, condamné à la flagellation, et puis il y a cette double condamnation, condamnation à mort. Pilate ne veut pas aller jusque-là, mais pourtant Jésus sera condamné à mort. Et comment on peut comprendre ce qui se passe là, cette double condamnation ? Est-ce que vous pourriez essayer de nous éclairer, ou comment vous-même vous recevez ça ?
En tout cas, on sait effectivement qu'il n'y avait jamais l'une et l'autre. C'était soit la flagellation, soit la crucifixion. Et c'est la raison d'ailleurs aussi pour laquelle Jésus peine énormément sur le chemin, donc il a besoin de Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix, alors que Jésus était charpentier, je pense qu'il était gaillard. Mais quand on était flagellé à ce point, en fait, on perdait son sang. Et Jésus, il est mort très vite sur la croix parce qu'il a été vidé de son sang. Et Pilate a essayé de sauver, entre guillemets, Jésus en disant « je vais le laisser flageller, comme ça la violence va s'apaiser ». Mais en fait, comme disait Marie-Liesse tout à l'heure, c'est comme un engrenage, quoi. La violence appelle la violence. Et finalement, par lâcheté, il condamne Jésus à mort.
Marie-Liesse, vous nous avez dit tout à l'heure que finalement beaucoup des personnages là qui entrent en lice les uns après les autres, au fond on peut s'y retrouver nous-mêmes parfois, il faut qu'on les renvoie à nous-mêmes. c'est cruel, ça peut nous percuter, mais il y a une part de choses qu'il faut prendre là, même si c'est difficile. Si on va un petit peu plus loin sur cette idée-là, on voit des personnages sur le chemin de Jésus qui chacun vont jouer un rôle, parfois modeste, d'autres fois plus important. Il y a Simon de Cyrène, il y a la Vierge Marie, et là, les larrons, évidemment, on pourrait en parler. Vous-même, vous aimez vous plonger dans, replonger, même quand c'est douloureux, dans cette vie de Jésus, en vous disant et moi, où en suis-je? Qui suis-je là? Comment aurais-je réagi? Vous vous posez cette question?
Oui, je pense que c'est un peu tout le sens de ces longues méditations qui, de fait, nous laissent un peu essoufflés là, pendant ces jours saints, parce que c'est tellement dense, c'est dur ce qui se passe. Mais en même temps, c'est là aussi... Moi, je me dis toujours, si je vis à fond le jeudi saint et le vendredi saint, je vivrai encore plus à fond la joie de Pâques. Donc, j'essaye de m'y plonger. Et je pense que vraiment, en fait, on est les uns après les autres dans notre vie... On est à la fois, mais même je pense, j'irais jusqu'à dire que parfois on est même configuré à Jésus dans cette victime, enfin c'est le juste persécuté. Mais c'est bon de voir que, enfin nous qui sommes pécheurs, on n'est pas à Jésus jusqu'au bout. Et en fait, on passe de Jésus à parfois à Caïphe, à parfois à la Vierge Marie qui est debout au pied de la croix,
à Simon
de Cyrène qui débarque, le pauvre, il rentre des champs et puis. Et en fait, on le prend sur le chemin, et là, il se retrouve...
Et on lui dit, viens là,
va aider Jésus. C'est dit dans l'évangile, il rentre des champs, donc oui. Il a une journée de travail dans les pattes. Enfin, c'est aussi, c'est pour moi, voilà, on peut être parfois, ça peut surgir, en fait, d'être la proximité avec Jésus peut parfois surgir au moment où on s'y attend le moins. Et en fait, Simon, je me demande qu'est-ce qu'il a pu ressentir d'être... proche de cet homme qui n'avait plus figure humaine. Enfin, ça nous disait aussi dans Isaïe. Enfin, il n'avait plus figure humaine. Il était presque comme un bout de chair sous guidon. Enfin, pardon pour l'image, mais c'est vraiment très violent ce qui s'est passé. Et il est là, et il avance, et il avance, et il monte jusqu'à la croix avec Jésus. Enfin, ça change une vie, en tout cas, d'être si proche.
Frère David Marie.
Oui, il y a d'ailleurs une scène très belle dans le film La Passion là de Mel Gibson que j'avais vu il y a quelques années, où on voit justement Jésus qui porte la croix et Simon de Cyrène à ses côtés. Il se regarde, donc Jésus complètement défiguré, et à un moment donné on a l'impression que Jésus est comme suspendu à la croix, et Simon de Cyrène il porte à la fois la croix et Jésus, enfin il y a une sorte de retournement de situation. Jésus vient pour sauver toute l'humanité et il accepte qu'un pauvre homme comme nous porte la croix avec Jésus et marche derrière Jésus.
Alors évidemment, nous vous invitons à approfondir tous ces textes au cours de ces jours, parce que au cours de quelques dizaines de minutes, on ne peut pas aller totalement au fond des choses. Bon, on a parlé de Simon de Cyrène, la Vierge Marie, on pourrait s'étendre longuement sur son attitude, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit à ce moment-là. Les larrons, évidemment, les deux larrons aussi, c'est intéressant. Le centurion, nous pourrions aussi en parler. Mais et puis les femmes de Jérusalem, également, voilà. Mais peut-être allons directement maintenant à Jésus lui-même, parce que on attend, frère David Marie, au fond, des réponses à toutes ces questions qui sont posées au cours du procès ou des procès. Jésus ne répond pas lorsqu'il y a des faux témoignages, il ne dit rien. Il répond à quelques questions, mais pas à toutes les questions. Est-ce qu'on oserait dire que ce que dit Jésus sur la croix, ce sont les réponses qui sont attendues, qui sont les réponses qui doivent être reçues aujourd'hui encore par tout un chacun?
Alors je crois effectivement les sept paroles de Jésus sur la croix sont vraiment les clés de lecture, les clés de lecture les plus importantes pour toute la passion, puisque là il a la force que pour dire encore quelques paroles, et donc elles sont vraiment très très précieuses pour nous, pour voir ce que Jésus vit et comment il nous sauve. Chez Matthieu et chez Marc, la seule parole qui a été retenue, c'est la première parole du psaume 21. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous voyons avec cette parole de Jésus un peu ce que Jésus a vécu la veille au soir, qui est pour Jésus le moment crucial de sa passion. C'est quand il est au Mont des Oliviers et quand il se tourne vers son père en disant « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc Jésus a été tenté. Il ne faut pas oublier Jésus, bien sûr. Il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais succombé à la tentation. Pour nous, c'est difficile à comprendre cela, mais il a été tenté. Et le cœur de sa tentation, finalement, c'est de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser conduire jusqu'à la croix. Et donc cette parole sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» reprend justement ce combat spirituel de Jésus qui va jusqu'à ce sentiment d'avoir été abandonné par son Père. Alors qu'on voit tout au long de l'Évangile qu'il dit « je ne suis jamais seul, le Père est toujours avec moi » et il le sait, comme nous aussi nous le savons. Et cependant, il a été éprouvé jusqu'à cette absence du Père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Alors sans entrer dans l'explication trop approfondie, parce que nous n'en aurions pas le temps, c'est dommage, c'est cette parole tout de même. Est-ce que vous pourriez, frère, nous dire quel est le cheminement, enfin le crescendo qui se vit là, voilà. Jusqu'à la dernière, hein, tout est accompli.
Jusqu'à la dernière, tout est accompli. Et je dirais, il y a encore une parole après. C'est une parole sans parole. C'est la huitième. Il y en a sept plus une. C'est le cœur ouvert. C'est la lance. Et le cœur d'où jaillissent l'eau et le sang. Mais donc le crescendo, d'une certaine façon, en tout cas la cohérence entre ces sept paroles, il y a effectivement la première, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la dernière, tout est accompli, donc nous voyons cela chez Saint Jean, mais il nous faut passer chez Luc maintenant pour mieux comprendre comment arriver de l'une à l'autre. Chez Luc, il y a donc les deux larrons qui sont crucifiés à droite et à gauche de Jésus, et tous les deux enfermés dans leur souffrance, dans leur violence, et Jésus, au moment de souffrir physiquement terriblement, puisqu'il est Dieu, mais il est totalement homme, il se tourne vers son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc nous voyons au pied de la croix les grands prêtres qui se moquent de lui, on voit les soldats romains qui l'exécutent, qui font leur boulot, qui sont en train de se partager ses vêtements, enfin qui sont complètement à côté de la plaque, comme on dit. Et Jésus, il se tourne vers son Père en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est là qu'on voit qu'il est en fait Dieu, mais pas selon notre schéma à nous, mais vraiment Dieu. Dieu qui nous aime envers et contre tout. Et le larron, celui que nous appelons le bon larron, et c'était un bandit, il a fait des choses très graves, il entend cela, et il voit l'attitude de Jésus. Et donc il y a le mauvais larron, entre guillemets, qui dit, mais si tu sauve-toi toi-même, si tu le Messie, et nous avec. Bon, il s'est enfermé dans sa souffrance, il s'est enfermé dans son désespoir. Tandis que le bon larron, entre guillemets, quand il a vu l'attitude de Jésus, eh bien il est touché. Et il dit, souviens-toi, Jésus, souviens-toi de moi.
Oui, Jésus, souviens-toi de moi. Donc, on peut vraiment inviter nos auditeurs à relire eux-mêmes ces paroles de Jésus sur la croix. Parce que, en ce Vendredi Saint, c'est sans doute la démarche intérieure qu'il faut que nous fassions, tout un chacun. C'est une façon pour vous, et ce sera ma toute dernière question qui appelle une réponse très courte, c'est une façon de renvoyer à nous, pour nourrir notre vie spirituelle, que de relire ces paroles du Christ en croix.
Tout à fait. Oui. Nous voyons donc Jésus sur la croix qui pardonne, Jésus sur la croix qui dit « j'ai soif », et Jésus sur la croix qui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc c'est vraiment le chemin qui s'ouvre devant nous en ces jours saints.
Je remercie beaucoup Marie-Liesse Federici d'avoir accepté de venir échanger, partager ce matin. Et merci beaucoup à vous, frère David, Marie. On continue à vivre avec vous ce tridôme pascal, avec cette très très belle liturgie que vous animez. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.